Établissement scolaire. Le centre, comme communauté et comme institution, ce que la loi protège pour l'établissement, quand le centre répond en tant que personne morale, et comment un programme de conformité transforme la norme en culture de protection. Voici la page complète, section par section.
Section 1. Ce que ce code protège pour vous.
Le code pénal, la Ley 74-25, modifié par la Ley 44-26, est en vigueur depuis août 2026 et voit l'établissement scolaire comme un espace de protection renforcée. Le vol commis dans un établissement scolaire est aggravé, avec 10 à 20 ans, et le vol de téléphone et d'appareils électroniques a sa propre circonstance aggravante.
Tout aussi important est son esprit. Le code déclare le droit pénal dernier recours et enjoint à l'État de privilégier la prévention et la résolution des conflits par les voies les moins attentatoires, en cohérence avec la justice restaurative. Cela conforte ce que les normas de convivencia, les normes de vie scolaire du Minerdé, demandent déjà. Médiation, discipline positive, résolution pacifique. L'établissement qui médie et accompagne avant de punir n'échappe pas à la loi. Il agit dans le même sens que son principe directeur.
Section 2. Ce qui a désormais un nom.
Des comportements qui traversent la vie institutionnelle ont désormais une qualification pénale précise. Le harcèlement dans le domaine éducatif et sa forme aggravée lorsque la victime est un mineur, la Ley 44-26 a retiré le mot « bullying » du texte. Le comportement, lui, reste le même. Le harcèlement aggravé dans le cadre d'une relation éducative ou de formation. Et la discrimination qui refuse l'accès à l'éducation avec une responsabilité expresse de la personne morale.
Et un signal fort concernant le personnel au sens large, l'exploitation sexuelle de mineurs est aggravée lorsque la personne responsable exerce sur la victime une autorité publique ou privée, de droit ou de fait, salarié ou non. Cela vise tout adulte à qui l'établissement confie des élèves, entraîneurs, chauffeurs, personnel d'appui, bénévoles. Recruter, superviser et former toute l'équipe, et pas seulement les enseignants, c'est travailler là où la loi a mis l'accent.
Section 3. Le centre comme institution. La personne morale.
La grande nouveauté institutionnelle. Les personnes morales peuvent être pénalement responsables des actes ou des omissions de leurs organes, représentants ou subordonnés, lorsqu'il y a eu, en outre, manquement à leurs devoirs de direction, de contrôle ou de supervision. Les dates doivent être dites avec précision. Ce régime, les articles 8 à 11, n'est pas entré en vigueur avec le reste du code. Il entre en vigueur dans un délai de 3 mois à compter du 5 août 2026, afin que les personnes morales se mettent en conformité. Cette fenêtre est une invitation à s'organiser, non un sursis pour ne rien faire.
À qui s'applique-t-il ? L'État et les organes publics en sont exemptés. Les établissements publics du Minerded, le ministère dominicain de l'éducation, ne répondent pas en tant que personne morale. Leurs personnes physiques, elles, répondent comme toujours. Les établissements privés, sociétés, fondations, associations, relèvent bien du régime, avec des amendes de 50 à 500 salaires minimum du secteur public pour les infractions graves et de 100 à 1500 pour les infractions très graves, et jusqu'à la fermeture ou la dissolution dans les cas extrêmes.
La bonne nouvelle se trouve dans le même article, le programme de conformité. La loi en énumère le contenu minimal. Code de conduite, cartographie des risques, formation aux droits humains, organes de supervision, protocole d'action, canaux de signalement anonyme avec protection des personnes qui signalent, révision périodique et traçabilité documentaire, et récompense celui qui le met réellement en œuvre, atténuation pour les programmes réels, réparation et coopération, et exemption lorsque le programme a été contourné par des manœuvres frauduleuses impossibles à détecter. Dans un petit établissement, l'organe d'administration lui-même peut assumer la supervision. C'est, presque point par point, la liste qu'une bonne commission d'éthique et un bon règlement de vie scolaire couvrent déjà.
Section 4. Signaler. Quand? À qui? Comment? Quand? Dès la connaissance ou le soupçon d'un abus, l'obligation s'impose aux directions, aux enseignants et aux fonctionnaires, publics comme privés, avec une exemption pour qui signale de bonne foi. Omettre de signaler des mauvais traitements ou des atteintes sexuelles contre un mineur est une infraction, et l'institution elle-même peut répondre de cette omission. Signaler cesse d'être un simple devoir individuel, c'est un devoir organisé.
À qui ? Le circuit interne, la direction et le service Orientation y Psychologia, accompagnement et psychologie, remontent au district et à la direction régionale du Minerd. En cas de maltraitance d'enfants, la transmission au Ministerio Publico, le parquet, ou au CONANI, l'organisme national de protection de l'enfance, se fait sous 24 heures au maximum, et le risque vital est notifié au district dans les 48 heures. Ainsi le fixe le Código de Ética du Minerd, article 42, et les Normas de Convivencia, article 27.
Commente. Avec un canal que tout membre de la communauté puisse utiliser sans crainte, accessible, confidentiel, protégeant la personne qui signale. C'est ce que la loi demande au programme de conformité. Le centre reçoit, enregistre et transmet. Il n'enquête pas sur des infractions et ne négocie aucun silence. Chaque signalement bien traité renforce la confiance des familles.
Section 5.
l'environnement numérique.
Dans le numérique, l'institution répond aussi en tant qu'institution. Il existe une responsabilité expresse de la personne morale pour le traitement induit de données personnelles, pour la diffusion illicite d'images et pour diffamation et injures. Plateformes, listes, photos et réseaux officiels relèvent d'un protocole institutionnel. Ce que l'on recueille, qui y accède, ce que l'on publie et avec quel consentement. Divulguer l'image ou les données d'un élève d'une manière qui le stigmatise est puni de 2 à 5 ans. Les montages et les contenus intimes le sont de peine plus lourde lorsque la victime est mineure. Et les faux comptes, y compris ceux qui utilisent le nom de l'établissement, relèvent de l'usurpation d'identité et constituent une faute très grave au regard des normas de ton vivencia, article 23. Une politique de citoyenneté numérique, usage pédagogique des appareils, vie privée, vivre ensemble en ligne, co-responsabilité avec les familles, transforme ce bloc en formation, le terrain où l'établissement sait le mieux travailler.
Section 6. Les adolescents et la loi.
L'établissement vit au quotidien avec la frontière entre discipline scolaire et justice pénale. Les moins de 13 ans ne sont jamais pénalement responsables. Face à un acte présentant le caractère d'une infraction, ce sont des mesures de protection qui s'appliquent. Les adolescents de 13 à 17 ans, l'article 225 le précise, jusqu'au jour de leurs 18 ans, ce jour inclus, répondent devant la justice pénale des adolescents, à finalité éducative et avec une privation de liberté seulement exceptionnelle. Les peines du code pénal sont faites pour les adultes.
Cela se traduit par une double voie qui s'ajoute et ne se substitue pas. La mesure éducative interne, avec une procédure régulière, sans sanction corporelle, pécuniaire ni collective, et la transmission du dossier à la Fiscalía des Niñez et Adolescencia, le parquet de l'enfance et de l'adolescence, lorsque le fait peut constituer une infraction et que l'élève a de 13 à 17 ans. Même l'adolescent sanctionné conserve son droit à l'éducation. La décision peut ordonner son inscription dans un établissement scolaire. Le système fait le pari que l'école soit une partie de la solution, jamais la porte de sortie.
Section 7. 5 pratiques qui protègent l'établissement.
1. Observeur. Établissez la cartographie des risques propres à l'établissement, celle que la loi demande au programme de conformité, avec votre communauté, et non copiée d'un autre établissement.
2. Documenter. Traçabilité documentaire. Procès-verbaux, autorisation écrite de sortie, registre d'incidents, attestation de formation. C'est la preuve que l'institution a planifié, supervisé et protégé.
3. Signaler. Un canal de signalement accessible et confidentiel, protégeant la personne qui signale et la transmission à l'autorité dans les délais requis.
4. Accompagner. Des équipes de médiation actives et une discipline positive, la réponse restaurative, cohérente avec le principe d'intervention minimale de l'article 2, numéral 13.
5. Prendre soin de l'information. Données et dossiers des élèves sous protocole. Images avec consentement, cas commentés uniquement avec celles et ceux qui doivent intervenir.
Section 8. Des idées reçues dont il vaut mieux se défaire.
Première idée reçue. L'établissement privé peut déjà être condamné en tant qu'entreprise. Pas encore. Le régime de responsabilité pénale des personnes morales, article 8 à 11, entre en vigueur dans un délai de 3 mois à compter du 5 août 2026. Et lorsqu'il s'appliquera, l'établissement doté d'un programme de conformité réel pourra bénéficier d'une atténuation, voire d'une exemption.
Deuxième idée reçue, l'école publique sera elle aussi condamnée en tant qu'institution. Non, l'État et ses organes publics sont exemptés du régime de la personne morale. Dans l'établissement public, ce sont les personnes physiques qui répondent de leurs propres actes ou omissions.
Troisième idée reçue, il suffit d'avoir le protocole archivé. Non. La loi atténue ou exempte au titre des programmes de conformité mis en œuvre, avec formation, canal de signalement opérationnel, révision périodique et traces écrites, et non au titre de documents rangés dans un tiroir. Un protocole que personne ne connaît ne protège exactement personne.
Et pour finir, trois regards de l'équipe éditoriale. Ce qui suit est un commentaire signé, non la lettre de la loi.
Saya Nakamura Ellis, la chercheuse, le voit ainsi. Le programme de conformité qu'exige l'article 8 est, vu depuis la recherche en éducation, un cycle d'amélioration continue appliqué à la protection. Diagnostiquer les risques, former, mesurer, réviser, documenter. Les établissements qui travaillent déjà ainsi n'ont rien à inventer, ils ont à systématiser ce qu'ils font. Ma recommandation, n'achetez pas un manuel générique, construisez la cartographie des risques avec votre propre communauté. Les preuves qui convainquent un tribunal sont exactement celles qui améliorent réellement la vie scolaire.
Zara Chen Rodriguez, l'innovatrice, le met en pratique. La fenêtre qui court jusqu'à novembre 2026 est une magnifique occasion si on l'utilise bien. Au lieu d'un atelier ennuyeux sur la conformité, faites-en un projet d'établissement. Que les élèves, les enseignants et les familles co-conçoivent le canal de signalement, la politique relative au réseau et le protocole sur les appareils. Ce que la communauté construit, la communauté l'utilise. Et un protocole que l'on utilise protège bien davantage qu'un protocole parfait qui dort dans un tiroir.
Et Carlos Miranda Lévy, le curateur, le résume ainsi. Un établissement scolaire est plus que la somme de ses employés. C'est une institution qui apprend, et ce code la traite comme telle. Il lui demande de l'organisation, pas de la perfection. La lecture stratégique de l'entrée en vigueur différée est simple. La loi a donné à chaque établissement un délai pour se mettre en ordre. Et celui qui en profitera transformera une obligation en avantage institutionnel. Changez-le, mais changez-le bien. La conformité n'est pas de la paperasse défensive, c'est la culture de protection devenue système. Et c'est cette culture que les familles choisissent.
Tout cela, article par article, avec chaque citation reliée au texte officiel, se trouve sur la page de l'établissement scolaire, sur ilearning.global/penal/rd/fr/centro. Lisez-la, cherchez-y et portez-la à votre commission d'éthique. Ce matériel oriente, il ne remplace ni la loi ni un conseil juridique.